bienvenue à ce nouveau petit cours d'histoire mondiale. Aujourd'hui, nous poursuivons notre découverte du passage au Néolithique en quittant le croissant fertile pour nous intéresser davantage à l'Asie et à l'Europe. Comme nous l'avons vu dans le cours précédent, le Néolithique n'est pas une période historique qui est fixe comme l'Antiquité ou l'époque moderne. C'est plutôt un stade d'évolution des sociétés humaines vers la sédentarisation et surtout la pratique de l'agriculture. Et ça, c'est une étape qui ne se réalise pas partout en même temps sur la planète. Alors, pour des raisons climatiques et géographiques surtout, c'est dans le croissant fertile qu'émergent les premiers villages du Néolithique. Mais qu'en est-il en Asie? Alors, si on va du côté de la Chine, on va statuer que le Néolithique commence et se développe, donc le Néolithique, c'est vraiment un processus, hein, ça se fait pas en claquant des doigts, entre 7000 et 5000 avant notre ère. Et on va même parler d'une première culture le long du fleuve jaune qu'on appelle la culture Shangshan, avec pas mal les plus anciens villages pour l'instant qui ont pu être identifiés sur le grand territoire de ce qu'est la Chine. On a même reconstitué un village très ancien près de Xi'an qu'on appelle le village de Banpo. Donc, vous pouvez écrire B-A-N-P-O dans votre navigateur et regarder parce qu'on a reconstitué les habitations qui représentent enfin un village qui a été habité entre 4500 et 3750 avant notre ère environ. Mais donc, ce qu'on sait, c'est que le long du fleuve jaune, on va avoir les premiers villages organisés et lentement, ce qui sera le début de la civilisation chinoise. On est beaucoup dans la province de ce qu'on appelle le Henan, si vous voulez regarder comme il faut sur une carte. Et lentement mais sûrement, bien là, on va passer à l'âge du bronze. Donc, on va découvrir la métallurgie, comment fondre les métaux, comment les mélanger, donc faire des alliages pour faire du bronze, qui est un mélange de cuivre et d'étain. Et ça, on va en reparler beaucoup là, dans les prochaines semaines. Et on va donc parler de la culture d'Erlitou, le vers à peu près 1900-1800 avant notre ère, jusqu'à 1500 environ. Je vous en parle tout de suite parce que dans les prochaines semaines, on va s'intéresser aux premières civilisations de l'humanité et ça va vous aider à faire des parallèles avec l'Asie un peu. Ce qui nous intéresse également quand même, et parce que dans les dernières semaines, on a eu des nouvelles d'une culture qui est dans la transition du Néolithique vers l'âge du bronze en Chine. On croit de plus en plus en fait que cette culture est associée aux origines directes de la civilisation chinoise. On parle de la culture de Sanxingdui. Et ça, c'est intéressant parce que les découvertes ont beaucoup commencé à émerger pendant la pause touristique de la pandémie. Les archéologues en ont vraiment profité pour fouiller partout en Chine. Et on peut dire en fait que même un peu avant, depuis le 2019, les fouilles qui ont été réalisées là, dans le Sichuan ont vraiment fait le tour du monde parce que la culture de Sanxingdui est un peu mystérieuse. On sait que ça démontre un peu les débuts de la civilisation chinoise dans cette transition du néolithique lentement vers l'âge du bronze. Et donc, les origines, on semble avoir commencé dans le sud du pays actuel et non pas dans le centre, comme on l'a souvent imaginé. En fait, ce sont plus les premières civilisations, peut-être, qui vont émerger du côté du centre de la Chine. Et on va établir, en fait, cette culture-là comme étant au cœur de son développement à partir d'à peu près 2800 avant notre ère. Donc, dans les prochaines semaines, on va beaucoup, beaucoup jouer sur ces chronologies-là pour les premières civilisations. On va en parler aussi aujourd'hui pour le néolithique plus européen. Donc, c'est vraiment une époque où ça bouge beaucoup un peu partout dans le monde, là, quand on joue entre 3000, 2800, 2600 avant notre ère. Et c'est à ce moment-là que cette culture commence vraiment à être très active, en fait, dans le sud de la Chine. Et on sait que les habitants auraient vécu, là, à l'époque d'une dynastie qui est en train de se développer, là, qui est la dynastie Shang, une des plus anciennes aussi de l'histoire de la Chine. Et la culture de Sanxingdui a été découverte grâce à deux fosses, en fait, en 1986, qui ressemblaient à des fosses sacrificielles et rituelles. Et elles avaient été creusées à 30 ans d'écart environ. Et quand on a commencé à fouiller, on a trouvé, en fait, des différentes pièces de poterie qui avaient été brisées, brûlées avant d'être déposées, et surtout, beaucoup d'objets en bronze dans un style artistique qui est vraiment unique, en fait. Et à un moment donné, bien, on va abandonner le début des premiers villages, qui pourraient même être les premières villes dans ce secteur-là, pour une raison qui est encore inconnue. Les murs d'une des villes, en fait, de la culture de Sanxingdui ont été trouvés en 1996 et ça couvre quand même 12 km carrés. Donc, on parle quand même d'une ville importante pour la transition là, entre ce qu'on pourrait appeler le néolithique et l'âge du bronze pour ce secteur-là de la Chine. Et depuis 2021, bien là, ça abonde. On a trouvé 6 nouvelles fosses, on a mis au jour plus de 600-700 artefacts, on inclut ce qui a été découvert dans les derniers mois. Ce sont des artefacts qui ont 3000-4000 ans. On a beaucoup de masques, en fait, probablement rituels en feuilles d'or qui sont absolument magnifiques et beaucoup d'objets en bronze. Donc, si jamais ça vous intéresse, eh bien, vous pouvez toujours aller voir quelques images sur Internet. Donc, voilà pour le passage du Néolithique, 7000-5000 avant notre ère. On est vraiment dans le processus de commencer à se sédentariser, commencer aussi l'agriculture qui va être basée ici sur le riz et commencer à créer les premiers villages vers, lentement mais sûrement, la maîtrise de la métallurgie et donc le développement des villages vers des villes aussi. Alors voilà ce qu'on vient de voir pour la Chine. Si on sort du côté du Japon, mais là c'est beaucoup plus tardif et c'est beaucoup plus long avant qu'on voit vraiment le processus complet de la néolithisation, donc vraiment sédentarisation complète, mais aussi pratique de l'agriculture pour assurer une partie de la subsistance, c'est beaucoup plus long. Il faut dire que le Japon, étant un archipel, est beaucoup plus isolé pour cette période-là, plus difficile à atteindre aussi. Et donc, la transition commence à peu près vers 10 500 avant notre ère, où on peut dire qu'on a des gens qui sont nomades ou même semi-nomades. Alors, ça veut dire qu'ils sont encore en déplacement, mais des fois, ils ont des campements et ils y reviennent à chaque année. C'est un peu ça, en fait, qu'on va identifier pour à peu près 10 500 avant notre ère. Mais lentement, mais sûrement, on va avoir une culture qui va se démarquer, qui va entrer plus vers la sédentarisation complète et la construction des premiers villages. Et c'est un très long processus au Japon. On parle de la culture Jomon que les archéologues peuvent identifier surtout pour les périodes les plus anciennes par la poterie. On n'a pas vraiment d'autre chose. Mais qui dit poterie dit stocker des ressources, surtout agricoles, et implique aussi de rester sur place quand même assez longtemps, du moins plusieurs mois par année au même endroit. Alors, les gens vont avoir des campements semi-permanents à plus d'un endroit. Ils vont se déplacer selon les saisons de chasse et graduellement vont commencer aussi à cueillir toutes sortes de fruits, de baies et lentement mais sûrement, mais c'est tardif, vont vraiment commencer la pratique de l'agriculture. Alors, on voit que c'est un peu différent, en fait, de ce qu'on a vu dans le croissant fertile où c'est plus direct, en fait, comme relation sédentarisation-agriculture. Pour le Japon, ça sort un peu gérer des sentiers battus ici. Et donc, les périodes d'habitation permettent aux potiers de réaliser des pots et des sculptures d'argile ou de terre cuite, et c'est ça qu'on a comme artefact. Parce que le néolithique, c'est la période souvent avant l'écriture. Alors, tout ce qu'on voit depuis le cours 2, on n'a toujours pas d'écriture. Alors, c'est vraiment l'archéologie qui représente le matériel de base pour réussir à comprendre ces premières sociétés-là. Et donc, entre 8000 et 500 avant notre ère, donc on est quand même assez proche de ce qui se passait en Chine, le climat de l'archipel nippon se réchauffe et la nourriture est plus abondante, notamment les poissons, les fruits de mer, et ça, ça fait en sorte qu'on va réduire le nombre de campements par année, on va peut-être bouger entre deux, là, on est capable de mieux comprendre le processus de sédentarisation. Alors, les premiers, les plus anciens villages du Japon pour l'instant, 5000 avant notre ère à peu près, très petits, on commence à voir du commerce à l'extérieur du Japon, peut-être vers 4000, 3000 avant notre ère, peut-être avec la Corée. Les preuves archéologiques sont quand même assez minimes pour ces théories-là, ces hypothèses-là. Et donc, nos sources archéologiques, en fait, sont assez limitées pour pouvoir bien démontrer ce qui se passe à ce moment-là. Mais pour des raisons d'isolement et aussi de période de refroidissement du climat par la suite, c'est à peu près vers l'an 1000 seulement avant notre ère qu'on peut parler de l'agriculture au Japon, culture du riz, qui semble faire son arrivée, là, possiblement grâce à des contacts avec la Chine. Alors, on a un processus où on s'établit parce qu'on a des ressources comme la pêche, les fruits de mer, la cueillette, la chasse de proximité, mais la pratique de l'agriculture est beaucoup plus tardive. Donc, les villages vont émerger, en fait, avant la pratique de l'agriculture pour le Japon. Et si on regarde pour la même période, bien, l'Égypte, elle, rendue en 1000 avant notre ère, elle a vu passer tous ses plus grands pharaons, la Mésopotamie a vu évoluer plusieurs civilisations déjà, et Stonehenge est déjà un vieux monument. Donc, vous voyez que le Japon a un développement néolithique, du moins un peu plus tardif. Et qu'en est-il du côté de l'Inde? Eh bien là, les fouilles archéologiques se multiplient depuis quelques années. Ça, c'est vraiment intéressant parce qu'on commence enfin à mieux comprendre l'histoire la plus ancienne de l'Inde, ce passage au néolithique et où il a commencé en premier. Faut dire qu'en Inde, bon, le territoire est immense, c'est un peu comme la Chine, pour réussir à vraiment bien établir où ça commence. Ce que je vous dis présentement en 2024 pourrait changer au gré des découvertes dans les prochaines années. On va donc parler d'une période agricole et pastorale en Inde parce que l'élevage va aussi être très, très important dans le processus de sédentarisation. Donc, on va parler du néolithique entre 8000 et 4000 avant notre ère. Et ça, ça va se passer dans différentes régions, tant dans le sud, dans l'est, dans l'ouest, dans le nord du pays. Donc, il y a plusieurs zones quand même. Il y a quatre grands foyers. On peut faire un peu comme les points cardinaux, en fait, de l'Inde, là, où on va voir les premiers villages néolithiques. Alors, on délaisse graduellement le nomadisme, on passe dans certaines régions au semi-nomadisme et à un moment donné, on y va vers la sédentarisation complète quand on peut à la fois pêcher, cultiver, toujours le riz, qui est la céréale la plus ancienne ici, et garder des animaux pour le travail au champ et, on s'en doute, l'alimentation, que ce soit pour les produits laitiers dans certaines régions de l'Inde, mais aussi occasionnellement pour la viande. Et donc, c'est le long des rives du fleuve de l'Indus. Alors, je vous invite toujours à aller voir sur des cartes pour bien vous situer, parce que je ne peux pas le faire en audio, qu'on trouve les plus anciennes traces de sédentarisation, puis dans la région du Cachemire, aujourd'hui au Pakistan. Et c'est d'ailleurs au Cachemire qu'on a la zone archéologique qui a peut-être fourni le plus de vestiges et d'artefacts du néolithique, là, tessons de poterie, sites de villages, d'habitations, etc. Et donc, ça nous a permis de confirmer que c'est le riz, pour l'instant, en tout cas, qui est la céréale la plus ancienne qui a été cultivée pendant le néolithique en Inde. Et il y a toujours un débat à savoir si la culture du riz s'est développée sur place ou s'il y a eu transmission des savoirs avec la Chine. Ça, c'est pas réglé. Comme je vous dis, on n'a pas d'écriture. On n'a pas non plus de documentaire filmé qui nous dit « Ah, c'est à ce moment-là que le riz est cultivé en Inde et voici comment ça s'est passé. » Donc, on doit se fier, en fait, aux découvertes archéologiques et aux analyses en laboratoire, entre autres de résidus dans la poterie, pour essayer de comprendre, en fait, comment on en est venu à cultiver cette céréale-là. Donc, c'est à venir, je vous dirais, dans les prochaines années, on va peut-être mieux comprendre, en fait, là, la culture du riz en Inde. Passons maintenant à l'Europe. On va être honnête, là, il serait quand même assez fastidieux et compliqué de faire le continent européen au complet. Alors, pour le cours, on va se concentrer sur quatre régions principales parce qu'elles seront au cœur de notre parcours sur l'histoire ancienne par la suite. Parce qu'à partir du prochain cours, on va commencer à parler des plus anciennes civilisations de l'humanité puis on va rester, comme je vous disais, dans l'Antiquité pour un certain temps. On va avoir beaucoup de choses à dire. Alors, intéressons-nous à l'Égée, donc la Grèce, c'est sûr, la péninsule italienne, la France, Écosse, Irlande, là, vous allez voir un peu pourquoi je les mets ensemble, et on va terminer avec l'Angleterre, parce que, bon, c'est sûr que le site de Stonehenge et toutes les études qui sont faites sur le site, c'est probablement celui qui nous fournit le plus d'informations intéressantes sur le néolithique anglais, oui, mais en même temps, c'est lié avec beaucoup de régions européennes, donc c'est pour ça que je vais mettre, je vous dirais, un petit peu plus l'accent là-dessus à la fin du cours. Alors, après le croissant fertile, ben c'est le pourtour de la mer Méditerranée qui intéresse ceux et celles qui souhaitent s'établir à long terme dans un village et éventuellement des villes. Et les régions du couloir syro-palestinien sont un peu complexes ici parce qu'il y a les zones qui sont les plus près de la mer vont voir le passage au néolithique à peu près dans les mêmes dates que l'Égypte et un peu la Mésopotamie. Mais plus on s'en va vers l'intérieur des terres, quand on s'enfonce vers le désert de Syrie, si on s'en va du côté là, des déserts, du côté de ce qui est aujourd'hui Israël, Palestine. Là, on a beaucoup de populations qui vont rester semi-nomades pendant très, très longtemps. Et c'est sûr que là, c'est toujours un petit peu plus difficile à étudier. On n'a pas d'écriture et, bon, c'est une région qui a tellement été occupée, qui a tellement été soumise aux guerres, aux conflits, que les vestiges aussi sont parfois un petit peu plus éparpillés. Donc, on a une documentation qui est assez fragmentaire. Mais donc, si on continue notre parcours en Méditerranée, on a fait l'Égypte dans le cours précédent, du côté de l'Égée, parce que c'est la prochaine région qui va intéresser ceux qui vont vouloir s'établir à long terme, donc se sédentariser. Donc, les gens bougent davantage autour de la mer Méditerranée, s'intéressent aux terres qui sont près des rives, entre autres de la mer Égée. Pourquoi? Ben, la mer Égée, ça fait comme un bassin. On parle du bassin Égéen, parce que quand vous regardez bien sur une carte, de la manière dont les territoires de ce qu'est la Grèce encerclent l'Égée, on a vraiment l'impression que c'est comme une mer fermée. Et ça, même si pourtant c'est une mer où bon, les conditions climatiques peuvent rendre la navigation très dangereuse, c'est très riche en poissons. Et si on s'établit le long des rives, eh bien, il y a possibilité quand même d'aller chercher une bonne base alimentaire, ce qui va favoriser ici la sédentarisation. Donc, c'est cet accès aux rives de l'Égée. Et ça commence beaucoup plus tard que le croissant fertile ou même la Chine, mais quand on va commencer à se sédentariser et à pratiquer l'agriculture, le développement et le passage vers l'âge du bronze, lui, va se faire très rapidement. Et il y a une raison pour ça, c'est que les échanges avec les communautés méditerranéennes qui sont déjà établies, qui, elles, sont déjà rendues dans les premières civilisations organisées, ces contacts commerciaux-là vont favoriser la transmission des savoirs et donc une évolution qui est plus accélérée entre le néolithique et l'âge du bronze. Alors, nos plus anciens gisements néolithiques découverts en ce qui concerne l'Égypte vont dater d'à peu près, je vous dis à peu près 4500 avant notre ère. Il y a quand même des vestiges, des morceaux de poterie, tout ça qui sont un peu plus anciens, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont associés à la sédentarisation. Mais donc, ce qu'on a comme trace, entre autres, pour cette époque-là, c'est des petites cabanes d'une seule pièce qui, au fil du temps, par contre, vont en venir à s'agrandir. Alors, on va commencer à cultiver les terres, on va avoir besoin d'une pièce pour stocker les pots avec les grains, cuisiner, un four, etc. Donc, à un moment donné, cette première pièce, cette première cabane va devenir l'équivalent d'une maison avec quelques pièces au fil du temps. Et on remarque en effet que dès que les gens vont se sédentariser sur la rive occidentale de l'Égée, c'est vraiment rapide, mais le nombre de sites d'habitation augmente constamment au fil des siècles. On a vraiment une grosse augmentation démographique qui va se réaliser là à partir de 4500 avant notre ère. Donc, entre 4500 et 4000, là, ouf, c'est tout un développement. Il y a vraiment beaucoup de villages et beaucoup de gens qui commencent à s'établir en Égée et de manière permanente. Et les communautés vont aussi apprendre à maîtriser la métallurgie autour de 3000 avant notre ère. Donc, ça prend moins d'un millénaire avant de passer d'une étape à l'autre. Et il faut dire qu'à cette époque-là, on a déjà, comme je vous disais, des civilisations qui sont avancées en Mésopotamie, en Inde, en Chine, en Égypte, parce qu'on est vraiment, on vient de passer une civilisation dont on va parler dans le prochain cours, qui est la civilisation d'Uruk en Mésopotamie, qui est celle qui est la première, pas mal, à avoir atteint l'âge du bronze, d'ailleurs, dans l'histoire. En Inde, on est rendu déjà avec la première civilisation de l'Inde. Et en Égypte, quand on est rendu à 3000 avant notre ère, c'est vraiment, on s'en va vers les débuts de l'époque pharaonique en tant que telle. Alors, ça bouge beaucoup ailleurs et du côté de la Grèce, on commence en fait le processus de néolithisation. Donc, on est encore dans des petits villages et petites villes pour à peu près la même époque. Et c'est un peu la même chose du côté de l'Italie. C'est assez similaire parce que, il faut dire que les premières bases, là, très sommaires, ce qu'on peut identifier présentement, c'est assez difficile aussi du point de vue archéologique en Italie parce que tout est habité depuis tellement longtemps, on ne peut pas creuser des trous partout. Mais bon, les bases qu'on a quand même assez sommaires en ce qui concerne les débuts d'une vie sociale et même économique, c'est à peu près 4000 avant notre ère. Donc, la Grèce aurait commencé le processus de néolithisation quelques siècles avant l'Italie. Et l'Italie, c'est vraiment sur la côte occidentale, donc vraiment du côté d'où est-ce que se trouve Rome aujourd'hui, la Toscane, etc., qu'on va voir les plus anciennes traces. Donc, on a des tout petits villages, juste quelques huttes. Lentement, mais sûrement, quand on s'en va vers 3000 avant notre ère, là, on va avoir des villages beaucoup plus habités, là, d'une centaine d'habitants et plus. Et du côté des céréales, c'est un peu comme, même chose pour la Grèce, je ne l'ai pas mentionné, mais on est dans l'orge et le blé pour les premières cultures céréalières. Et du côté de l'Italie, on est capable d'identifier l'élevage de moutons, de chèvres et même de cochons. Lorsqu'on commence à s'établir de manière permanente. Et ça, c'est un modèle très simple qui va perdurer jusqu'à l'âge du bronze. L'âge du bronze, assez tardif quand même pour l'Italie, parce qu'on va se rapprocher davantage du 2000 avant notre ère. Mais, encore une fois qu'ils vont l'atteindre, ils vont l'atteindre très, très vite, parce qu'ils vont se faire montrer, en fait, comment faire du bronze. Ils n'ont pas à découvrir le processus, contrairement à la civilisation d'Uruk, dont on va parler dans le prochain cours, qui, elle, va vraiment faire le processus pour comprendre comment fondre les métaux, les températures aussi nécessaires pour le faire, et comment mélanger le cuivre et l'étain pour donner le bronze. Alors, en Grèce, en Italie, quand on atteint ce stade évolutif-là, on apprend tout simplement de gens qui savent déjà le faire. On n'a pas à faire le processus de découverte, en fait, de tout ça. C'est sûr que les techniques de poterie en Italie semblent assez simples. En tout cas, c'est vraiment moins perfectionné qu'en Égypte ou même en Grèce pour la même époque. Donc, on a vraiment des petites communautés, des petits villages qui sont souvent isolés les uns des autres, où on se débrouille pas mal par soi-même, en fait, au néolithique. Et on voit que la céramique, c'est même pas une spécialisation ou un métier ici. Il n'y a pas comme un style propre qu'on va pouvoir voir, en fait, dans les plus anciens villages du côté du croissant fertile. Ça semble être plus une activité propre aux familles. Chacun fait un petit peu ses pots de manière presque aléatoire et les styles sont donc très, très, très variés. Alors, c'est un peu différent, donc, ce processus-là là, dans la vie, dans les villages, que ce qu'on a pu voir, en fait, du côté du croissant fertile. On va lentement donc commencer à travailler le métal, mais ça va prendre des experts. Et ce qu'on réalise, c'est que là, par contre, le style du travail du bronze en particulier se ressemble un peu partout en Italie. Donc, on semble voir des experts qui vont se déplacer de village en village. Et on a même trouvé des objets métalliques comme des armes dans l'est de l'Italie, dans les Balkans, qui vont quand même témoigner d'un haut degré de standardisation des armes en bronze. Et là, ça, on pense que c'est une civilisation qu'on va voir aussi dans les prochains cours, celle des Mycéniens, qui, cette civilisation-là, peut-être étendue son savoir-faire sur une bonne partie du sud de l'Europe, incluant l'Italie. Alors, on va parler de toutes ces civilisations fascinantes dans les prochains cours. On a tout un plan de match, en fait, en ce qui les concerne, mais on va rester pour l'instant dans le néolithique et on va maintenant parler des dolmens et des structures mégalithiques. Là, vous me voyez venir de ce côté-là. Parce que la transition du nomadisme vers la sédentarisation en France, en Espagne, en Écosse, en Irlande, et là, ben, c'est sûr qu'il faut inclure aussi l'Angleterre, ben, c'est associé à une observation des saisons. C'est au cœur, en fait, de cette transition-là. On n'est pas dans des régions très chaudes où on peut aller chercher plus d'une récolte par année. C'est très différent du point de vue climatique. Et là, l'observation de certains phénomènes astronomiques comme les solstices et les équinoxes, ça devient important dans la planification des premiers calendriers agricoles. Et ce sont des régions, donc, vraiment affectées davantage par les changements de température et de luminosité. Alors, en ce qui concerne le néolithique européen, on va jouer entre 5000 et 3000 avant notre ère essentiellement. Donc, vous voyez que c'est encore c'est plus tardif, encore une fois, que le croissant fertile, mais ça ressemble quand même un petit peu plus à ce qu'on a vu du côté de la Grèce et de l'Italie. La Chine est plus ancienne ici, l'Inde aussi. Alors, on va voir entre 5000 et 3000 avant notre ère des petites communautés qui s'installent dans des villages semi-permanents au départ et graduellement permanent. Donc, plus on se rapproche du 3000 avant notre ère, plus on s'en va vers la permanence des établissements et donc plus de traces archéologiques aussi. Alors, lentement mais sûrement, on commence à essayer de cultiver le blé, d'essayer de cultiver aussi l'orge éventuellement. Le choix des sites va être basé à la fois sur la proximité de l'eau, parce que là, on en a besoin pour l'agriculture, mais toujours pratique aussi les cours d'eau pour la pêche si jamais l'agriculture ne fournit pas ce qu'on a besoin, mais aussi l'eau est importante si on veut garder des troupeaux. Alors vraiment, les secteurs où on va voir en fait les plus anciens sites néolithiques sont toujours près de lacs, de rivières, surtout de rivières en fait, en général, un peu partout en Europe. Et comme on va développer des monuments qui sont faits de mégalithes, pourquoi? Pourquoi ces grosses pierres? Pourquoi on va mettre du temps pour transporter tout ça? C'est que là, on sait qu'on va rester sur place. On ne se déplacera plus. On veut laisser ça aux générations. On va faire un travail générationnel ici parce que ça prend du temps déplacer des pierres, les monter, parfois les tailler aussi. Mais donc, ce qu'on appelle les monuments mégalithiques sont surtout faits pour marquer le temps, les saisons et marquer en fait un lieu où on sait qu'on arrive dans une zone où les gens commencent à s'établir aussi. C'est très visible quand on utilise des très grosses pierres. Alors, c'est associé à la fois comme des marqueurs géographiques, mais c'est aussi associé à des rituels qui sont à la fois astronomique et on pourrait dire spirituel d'une certaine façon. Et les solstices et les équinoxes sont vraiment au cœur de beaucoup, 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 beaucoup de ces sites où on va avoir là, des cercles de pierres. Vous pouvez penser au site de Newgrange en Irlande qui n'est pas un cercle de pierres, mais qui est vraiment, vraiment intéressant sur l'alignement en ce qui concerne le solstice d'hiver en particulier. Vous avez le très célèbre site de Callanish en Écosse, parce que si vous avez déjà vu la série Outlander, vous connaissez très, très bien ce cercle de pierres. Là. On peut penser aussi à beaucoup, beaucoup de dolmens qu'on a du côté de la France. En fait, le plus grand se trouve à Essé, donc ça, vous pouvez aller voir sur Internet. Et bien entendu, Stonehenge! Celui qui fascine le plus parce que, bon, les découvertes archéologiques, il faut le dire, abondent. On fait beaucoup d'études et il est plus dans l'actualité et c'est un peu la raison pour laquelle les gens ont tendance à peut-être le connaître davantage, mais pourtant, même en Angleterre, que vous alliez dans le nord, dans tout ce qui est la région des lacs, vous avez d'autres sites de cercles de pierre. En fait, il y en a un peu partout, mais celui de Stonehenge est vraiment le plus gros et le plus imposant, et peut-être celui qui a été le plus important pour lier les communautés européennes et peut-être même du croissant fertile entre elles lorsqu'on va approcher là, les années 2700-2600 avant notre ère. Et c'est pour ça peut-être aussi que le site, du point de vue des découvertes archéologiques, est si important. Et il a fait l'actualité au mois d'août 2024 après que des analyses de minéraux sur la plus grosse pierre du site, et ça c'est celle qu'on dit de l'autel, donc c'est une grosse, grosse pierre qui est couchée au sol, eh bien on a révélé qu'elle provenait d'Écosse. Alors ça, c'est tout un voyage qui vient appuyer les hypothèses sur le côté, on va dire, rassembleur du site. Les gens viennent de loin et apportent leur touche peut-être à ce site très important pour l'astronomie et donc peut-être les rituels, la spiritualité. Alors, on vient juste de rajouter une couche, en fait, à ces connaissances-là sur le côté. Les gens viennent de différentes régions pour venir célébrer les solstices du côté de Stonehenge. Alors, en 2024... Si on essaie de faire un résumé de tout ce qu'on sait sur ce site, il s'est passé vraiment beaucoup de choses. Je vous dirais en fait que grâce aux nouvelles technologies géoradar, LIDAR, etc., on peut dire que c'est vraiment à partir de 2016 là, qu'on a commencé à avoir une nouvelle vision du site de Stonehenge et où les découvertes archéologiques et les analyses ont été beaucoup plus importantes et ont vraiment enrichi nos connaissances. Et la somme de ces découvertes-là jusqu'en 2024, eh bien, nous permet d'affirmer avec beaucoup plus de certitude que le site de Stonehenge, mais aussi les sites environnants, parce que vous avez un village aussi, celui qu'on appelle le village de ceux qui ont construit Stonehenge sur plusieurs générations, qu'on appelle Durrington Halls. Vous avez aussi Avebury, qui est le plus gros cercle en fait de pierre en Angleterre. Donc, on est en train de comprendre que tout ça, ça semble avoir appartenu à un grand lieu de procession cultuelle. Donc, c'est lié, en fait. Et à cette époque, du néolithique anglais. Donc, quand on parle du néolithique anglais, on parle davantage de 4500 à 2000 avant notre ère. Donc, on a un bon 2500 ans pour tout ce processus où les chasseurs-cueilleurs vont s'intéresser, entre autres, à cette région-là. On est vraiment dans le sud de l'Angleterre et vont décider d'y rester, de délaisser, en fait, la chasse et la cueillette pour la pratique de l'agriculture. Et donc, lentement mais sûrement, on s'intéresse aux phénomènes astronomiques, on s'intéresse au passage des saisons, quand semer, quand récolter, espérer aussi que l'année suivante, on va avoir autant de nourriture qu'on a eu par le passé. Alors, tout ce processus-là là, va se faire entre 4500 et 2000 avant notre ère. On peut vraiment parler de l'époque finale de la préhistoire et vraiment du néolithique à partir de ce moment-là, même si on sait que le site où se trouve, en fait, le cercle de pierre de Stonehenge a été semi-habité à partir de 8000 avant notre ère. Donc, c'était connu de plusieurs communautés nomades et semi-nomades bien avant la construction du site. Et c'est une plaine hein, à l'époque qui est entourée de forêts. C'est plus vraiment le cas aujourd'hui, du moins beaucoup moins. Mais on a même des traces de pas fossilisés. Là. C'était un site de chasse idéal, parce que vous avez la rivière Avon qui est tout près, le climat y est assez doux quand même, donc les conditions sont assez favorables à l'établissement, et on commence donc à remarquer, là, à partir de 4000 avant notre ère, des tentatives de développement de l'agriculture et des premières étapes de cercle avec des fossés, des poutres de bois, quand on arrive là, vraiment dans la période de la néolithisation. Donc, ce qu'on comprend, il y a eu plusieurs des analyses d'ossements qui ont été publiées dans les dernières années, qui nous montrent que les habitants du site et des environs peut-être les constructeurs de d'autres cercles de pierre en Grande-Bretagne, bien, on a des gens, en fait, qui arrivent de partout. On a, dans l'ADN, réalisé qu'il y a des gens qui arrivaient de Turquie. Il y en a qui sont passés par la péninsule ibérique, donc Espagne en particulier. D'autres, en fait, venaient de France. Et ils sont donc passés par ces régions-là avant d'atteindre le sud de l'Angleterre. On sait aujourd'hui qu'il semble y avoir eu quand même beaucoup de gens aussi qui sont passés par l'Écosse et qui ont amené entre autres, cette grande pierre d'autel. Et ces gens-là vont arriver dans la région et vont s'y établir de manière permanente, vont remplacer les chasseurs-cueilleurs. Alors, on a quand même une communauté qui est mixte. Alors ça, c'est quand même assez intéressant. Et on va s'établir, on va construire un village, on est au Néolithique, et c'est le site de Durrington Halls. Des fois, vous allez voir Durrington Halls, les deux termes des fois sont utilisés. Mais donc, c'est un village qui va servir de lieu d'habitation le temps au moins de la construction du site de Stonehenge en particulier. Et là, on a découvert une quantité quand même assez importante d'ossements de bœuf, de cochon. Encore une fois transporté par bateau de l'Écosse. Alors, c'est pas la première fois, en fait, qu'on a des liens avec l'Écosse pour les gens qui ont travaillé à la construction du site de Stonehenge. Et ce qu'on a observé, c'est que les ossements d'animaux démontrent qu'ils étaient abattus à l'été et à l'hiver, et ça, ben, ça coïncide avec les périodes des solstice. On a trouvé aussi des pots de céramique brisés, peut-être volontairement, sur un site qui est tout près aussi, qu'on appelle Lark Hill, qui date de 3650 avant notre ère. Donc, il est plus ancien, c'est là où peut-être on a commencé à faire des essais, à évaluer en fait comment le soleil fonctionnait, quand est-ce qu'on avait vraiment le solstice d'hiver, quand est-ce qu'on avait vraiment le solstice d'été, parce que là, il faut faire ça sur plusieurs années, et même plusieurs générations pour être sûr de son coût. beaucoup, hein. Et comme on n'a pas d'écriture, ben on va marquer, on va faire plus des marques, en fait, probablement sur du bois, de la pierre ou du cuir, ce qui est complètement disparu aujourd'hui à cause du climat. Et à un moment donné, on va se dire, OK, on pense qu'on est pas mal juste, en fait, par rapport à l'axe des solstices. Et c'est comme ça que lentement, mais sûrement, on va faire les premières constructions. Donc, il n'y a rien de surprenant à savoir que avant qu'on commence la construction même de Stonehenge, vers peut-être 3000 avant notre ère, là, on va avoir en fait des sites qui sont faits de poutres et de palissades de bois. On a les traces aujourd'hui, mais on n'a plus le bois. Alors, le bois, son avantage, c'est que si jamais on s'est trompé dans la façon de construire un site, ben on peut recommencer, on peut changer d'idée, ce qui ne sera pas le cas quand on va commencer à déplacer des très grosses pierres très, très lourdes. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui nécessite... C'est pas quelque chose qui nécessite d'être pressé. Ce qu'on voit, en fait, dans la construction de ce plus ancien site-là, où est-ce qu'on a plus des palissades de bois, qui est Lark Hill et le pré-Stonehenge, bien, ce qu'on réalise, en fait, c'est que c'est du travail communautaire très bien fait. Et le fait qu'on ait trouvé autant d'ossements d'animaux et tout ça nous montre qu'on compensait probablement le travail, l'effort collectif par des banquets ou même peut-être des rituels ou des sacrifices animaliers. C'est très difficile à établir pour l'instant. Mais... ce qu'on voit, c'est que les gens s'établissent dans la région, commencent à pratiquer l'agriculture, observent le passage des saisons, les phénomènes astronomiques les plus importants, et là, on commence à avoir une vie politique, sociale, religieuse qui se met en place, parce que là, il faut des gens qui vont gérer les constructions, qui vont gérer aussi le transport des pierres, comment on va les placer, comment on va les aligner. Donc, il faut penser qu'il y a quand même beaucoup de gens qui collaborent ensemble, et sur plusieurs générations, on le sait qu'on réussira pas ça en un claquement de doigts. C'est pas la Chine qui construit un hôpital en 10 jours pendant la COVID. Ce sont des très grosses pierres avec des technologies très, très rudimentaires. On sait que ça va être très, très long. Et donc, il y a une étude aussi qui a démontré que deux des pierres centrales du site ont probablement toujours été là. Alors ça, c'est quand même intéressant. Ça veut dire qu'il y a probablement déjà des grosses pierres qui ont donné l'idée ou qui ont démontré que c'était peut-être un bel endroit pour pouvoir construire un cercle de pierres très permanent, hein? C'est la pérennité, la pierre, la durée dans le temps. Et il y en a une qui, probablement par accident, on pense que c'est hasardeux, qui est pas mal alignée avec le lever du soleil pendant l'été. Est-ce que ce serait le point de départ du choix de Stonehenge pour construire cet immense cercle de pierre? C'est une possibilité, c'est une hypothèse, en fait, qui est avancée. Les pierres du site le plus récent, celui que vous voyez aujourd'hui, donc les gros monolithes de 40 tonnes, sont quand même, c'est quand même intéressant. Elles sont alignées à 180 degrés sur le lever du soleil au solstice d'été, et il y en a qui sont alignées là, à 180 degrés sur le coucher du soleil au solstice d'hiver. Donc quand même une bonne précision pour l'époque. Et donc on peut vraiment parler de Stonehenge comme étant le cercle de pierres cultuelles le plus majeur de la fin du Néolithique partout en Europe. Là, c'est vraiment le plus important et le plus gros, et celui où il y a eu le plus de gens aussi qui arrivaient de partout. Donc, ce grand cercle, celui que vous voyez, sa construction coïncide avec la construction de la grande pyramide de Khéops en Égypte, à peu près 2600 avant notre ère, et c'est une époque où on a des outils en bois, en os ou en silex. D'ailleurs, on a trouvé une carrière de silex où on allait chercher ce qui était la base des outils. Et ce qui est de fascinant aujourd'hui, là, c'est justement le voyage de ces pierres. On sait que les plus grosses pierres proviennent d'un site qui est assez précis, qui s'appelle Marlborough Downs. On appelle ça le grès de Sarcène. C'est plus dur que le granit, et ça, c'est 40 km au nord de Stonehenge. 40 km à pied, transporter quand même des pierres aussi lourdes, ça s'est fait quand même sur une longue période, parce qu'on a encore plein, en fait, de ces pierres-là, de grès, qui sont éparpillées. On sait qu'ils en ont choisi 80. Elles ont différents poids, hein, entre 4 et 40 tonnes. Les plus grosses mesurent 7 mètres de haut, donc là, vous les voyez très, très bien aujourd'hui, là, sur le site. Et on a d'autres pierres, qui sont plus petites, qu'on appelle les pierres bleues, qui, elles, viennent du sud du Pays de Galles. Là, on parle de 260 km, à une époque où eux n'ont pas la roue. On va parler de l'invention de la roue, en fait, dans le prochain cours avec la civilisation d'Uruk, mais c'est pas le cas, en fait, pour le néolithique anglais. Et il y a eu beaucoup, beaucoup de recherches en archéologie expérimentale qui sont quand même assez probantes. On pense bien qu'on a déplacé ça sur des traîneaux à plusieurs personnes. Et donc, on l'a essayé. Si on est beaucoup de gens et qu'on a un bon rythme, on est capable de déplacer en les traînant. Et on pense là, que le déplacer du Pays de Galles jusqu'à Stonehenge, il fallait les tailler. Donc, les traîner, ça fait prendre à peu près 10 ans à amener une pierre complète sur le site. Et une fois sur le site, on allait polir en plus ces pierres-là avec d'autres pierres, donc cogner la pierre pour leur donner un blanc éclatant. Et on va aussi avoir besoin d'architectes, de contremaîtres, de maçons, de travailleurs sur le site qui vont, comme je vous disais, planifier un cercle qui est quand même très précis et qui vont organiser un travail qui est collectif. Alors, c'est même si on n'a pas d'écriture, on ne peut pas imaginer que ça s'est fait sans ça. C'est impossible, en fait, surtout avec les distances que parcourent les pierres. Ça prend une planification. Faut y avoir pensé à l'avance. C'est probablement qu'il y a des gens venant du Pays de Galles qui ont dit « Nous, on a les pierres pour ça. » Ce qui montre encore une fois les communications entre les communautés néolithiques sur une bonne partie de l'Europe, très probablement, en fait. On se doute, en fait, que le cercle, pour qu'il soit aussi bien fait, ben, ça a été réalisé à l'aide de cordes là, pour marquer les emplacements et qu'on se fie à l'horizon pour y arriver. C'est pas pour rien que Stonehenge se trouve où il est, c'est une plaine. Alors, c'est beaucoup plus facile d'observer le soleil, observer l'horizon, et peut-être pour faire ses premiers calculs aussi. Et ça montre donc, comme je vous disais, le travail d'équipe. Alors, c'est une société très organisée, ça prend des connaissances en maçonnerie, mais aussi même en mécanique, parce que là, ce qui s'ajoute à ça, c'est que les pierres s'imbriquent, surtout les linteaux horizontaux. Pourquoi ils tiennent encore debout? C'est que ça s'imbrique vraiment parfaitement. Alors, il faut que ça ait été planifié à l'avance, c'est très, très bien calculé. Et au-delà de ce côté plus calendaire de Stonehenge et cet alignement sur les deux solstices, on a aussi en fait un site qui est funéraire et qui est lié à une élite. Parce que quand même pas mal de tombeaux qui ont été découverts sur le site, on a présentement à peu près une soixantaine d'individus, beaucoup de femmes, ce qui, dans les prochaines années, on va essayer de mieux comprendre le rôle des femmes à cette époque-là. Je vous rappelle qu'on n'a pas d'écriture, donc c'est très difficile d'évaluer, mais ces gens-là sont inhumés avec des objets de valeur, donc des bijoux en or, qui arrivent des fois de différentes régions en Europe, et on sent que ce sont des gens de haut rang qui ont l'opportunité, ce droit peut-être, d'être inhumés près du site sacré qui devient de plus en plus populaire là, quand on joue là, dans les 2500, 2400 avant notre ère. Et d'après les analyses d'ADN qui ont été faites sur plusieurs des corps, on a des gens d'ailleurs en Europe et ils sont inhumés avec des objets qui sont faits avec du métal, du bronze et on réalise qu'il y a probablement même des échanges commerciaux avec l'Angleterre parce que, bon, ces gens sont inhumés avec de l'ambre de baltique, du jade, d'Espagne, de l'or, des cournouailles. Alors, on voit vraiment que Stonehenge est en train de prendre une importance culturelle pour beaucoup de communautés bien au-delà du sud de l'Angleterre. Et le soleil, inévitablement, le cycle des saisons semble avoir été au cœur de ces cultes-là. Et pourquoi avoir inhumé des gens si près du site? Est-ce qu'ils ont vraiment cru à peut-être un cycle aussi de la vie et de la mort, et qu'après la mort, la vie peut reprendre. On ne le sait pas, comme je vous disais, il n'y a pas d'écriture, mais on ne peut pas l'exclure non plus. Mais tout ce qu'on sait, c'est que les gens qui étaient de très haut rang, qui sont inhumés tout près du site, avaient la chance de voir, en tout cas, l'alignement des solstices sur le site de pierre, si on les inhumait à cet endroit-là. Alors, est-ce que ça fait partie de la raison pour avoir eu des tombeaux, pas tant que ça, de gens peut-être plus importants que d'autres? Les études se poursuivent, se multiplient sur le site et dans les environs. Alors, nous en reparlerons certainement. Alors, pour en savoir plus sur le sujet de ce cours, comme toujours, je vous suggère des livres. Je vous en suggère deux pour cette semaine. Celui qui est un bon achat, je vous dirais, si toute la question du passage de la préhistoire au néolithique et du développement des villages néolithiques vous intéresse. Il est récent d'ailleurs, il s'appelle « Préhistoire d'Europe ». Il a été écrit par Anne Leoerf, sous la direction de Joël Cornette. C'est la nouvelle collection « Mondes anciens » de Bélin. Alors, c'est très récent. Donc, ça peut être un achat vraiment très, très intéressant. Et si vous lisez en anglais, parce que c'est sûr que des régions dont j'ai parlé, pour lesquelles les livres en français sont trop vieux, pas à jour. Il y en existe un en anglais sur l'Inde en particulier qui vaut vraiment la peine si ça vous intéresse. Donc, il s'appelle « India, the Ancient Past » par Burja Ravary et c'est paru chez Routledge. Vraiment, c'est un livre assez rare, je vous dirais, pour bien comprendre, en fait, le passage vers les premières civilisations. On parlera de la civilisation de l'Indus dans les prochains cours, alors c'est aussi inclus dans ce livre-là. C'est tout pour ce troisième cours. Je vous dis à très bientôt, alors que nous allons commencer à nous intéresser aux plus anciennes civilisations de l'humanité.